Et voici donc le journal, Hélène Zélani.
Comment lutter contre le trafic de drogue dans certaines cités de Marseille? Le préfet suggère de détruire l'un des blocs du quartier du Clos-la-Rose. Est-ce la solution? Reportage à suivre de Nathalie Chevance. À une dizaine de jours du premier tour, les syndicats de PSA Aulnay en appellent à Nicolas Sarkozy. Le président candidat les a reçus ce matin et leur promet une réunion avec le PDG et le gouvernement. Dans ce journal, Marine Le Pen, qui comme François Hollande, réfute l'argument des marchés financiers pour influencer les électeurs. La qualification du club de foot de Quevilly pour la finale de la Coupe de France, mais aussi Nicolas Anelka qui, en plus d'être joueur, sera entraîneur de son équipe de Shanghai. La bourse, en ce moment, en baisse de 0,25% à 3229 points. Et la météo, toujours maussade et ça ne va pas s'arranger demain.
Europe 1.
Il y a tout juste 20 ans, le 12 avril 1992, Disneyland Paris ouvrait ses portes à une trentaine de kilomètres de la capitale. Aujourd'hui, avec une cinquantaine d'attractions sur deux parcs, Disneyland est devenue la première destination touristique en Europe. 250 millions de visiteurs, plus de 55 000 emplois au total. Il y a 20 ans, Gorka était un petit garçon. Il découvrait pour la toute première fois le parc d'attractions. Il a même reçu un pass à vie en tant que premier visiteur.
J'avais 8 ans à l'époque, et en arrivant, bon, on s'en souvient forcément parce que tout le monde nous regarde, on se demande ce qui se passe, les gens parlent entre eux. Ils nous ont remis un pass à vie pour tous les Disney du monde. C'était vraiment un pass unique, de la taille d'une carte bleue, couleur violette. Je me souviens qu'on était toute la journée avec les VIP, on avait fait les parades, donc on était dans les voitures officielles, toutes les personnalités, tout le monde applaudissait. Donc c'est vrai que ça, c'était un souvenir assez marquant quand même.
Il vous sert ce pass là encore ?
Moins qu'avant, mais je l'ai beaucoup utilisé. Ouais. Je pense qu'à un moment, j'aurais pu être guide chez Disney. Je connaissais un petit peu tous les raccourcis.
Il est rangé où, là, par exemple, le pass ?
Là, il est dans le portefeuille de ma mère. Il faut lui demander l'autorisation. Non, je plaisante, mais c'est elle qui le garde, puisque c'est elle qui fait le plus attention aux affaires.
Des propos recueillis par Martin Fenot.
13h02 sur Europe 1.
Alors qu'un nouveau règlement de compte a endeuillé Marseille, hier soir, le préfet de police Alain Gardère propose une solution pour lutter contre la criminalité dans les cités de la ville. Pourquoi ne pas détruire l'un des blocs du quartier sensible du Clos-la-Rose, bien connu pour ses trafics en tout genre? Pour l'instant, il faut préciser qu'il ne s'agit que d'une piste de réflexion, sachant que malgré les multiples opérations de police, le trafic de drogue continue. Qu'en pensent les habitants? Nathalie Chevance s'est rendue sur place.
Tout au fond de la cité, devant le bâtiment 41 visé par l'opération, les langues ont du mal à se délier. Les guetteurs surveillent les faits et gestes des habitants, et notamment ces mères de famille en première ligne, comme elles disent. Elles vivent dans le bloc qui pourrait être dynamité, une solution d'après elles, pour fuir le Clos-la-Rose et être relogées ailleurs, enfin.
Des menaces, on a des boîtes aux lettres détruites, nos enfants qui sont menacés aussi. Ce serait toute la cité qu'il faudrait détruire. On aimerait partir, c'est sûr, tous. Tous, c'est l'enfer.
Il y a des enfants qui meurent pour rien et c'est grave ce qui se passe. C'est très utile de détruire cet immeuble. Il faut que ça cesse, il faut.
C'est beaucoup d'insécurité. Ils sont de partout, madame, tout le clou.
Ils nous regardent derrière les fenêtres.
Je ne peux pas vous dire, mais j'ai peur de sortir.
Et si le constat fait l'unanimité, la solution de dynamiter ce supermarché de la drogue laisse quand même très perplexe, comme en témoigne Julie, qui connaît le réseau du Clos.
On pourra détruire n'importe quel bâtiment, ils se déplaceront quand même. Pour vraiment que le réseau s'arrête, il faudrait détruire quoi? Tous les bâtiments? Les gens, ils font leurs affaires et les affaires, elles s'arrêteront pas. Il y a eu des règlements de compte, ils se sont fait tirer dessus, il y a des membres de chez eux qui se sont fait tuer, mais ça les empêche pas. Hein. Deux jours après, ils recommencent. Les gens, ils sont de plus en plus jeunes dans le réseau, c'est de famille en famille. Honnêtement, je sais même pas s'il y a une solution à ça.
Plus de policiers sur le terrain jour et nuit, c'est ce que demande de son côté le maire socialiste du secteur, totalement opposé à la démolition des immeubles. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et demain après-midi, réunion sur la sécurité à Ajaccio. Elle sera présidée par Nicolas Sarkozy. Claude Guéant sera également présent. Le 1er avril dernier, un engin explosif avait été découvert à la sous-préfecture de Corté. Un prof d'histoire géo condamné pour avoir proposé un joint à l'un de ses élèves, le jeune homme de 29 ans qui exerçait dans un établissement pour apprentis d'Emerinville en Seine-et-Marne, devra purger 6 mois de prison ferme. Il a l'interdiction d'enseigner pendant 5 ans. Non seulement il avait proposé du cannabis à un élève, mais en plus, un atelier de production a été retrouvé chez lui avec en prime des champignons hallucinogènes. Le président candidat, Nicolas Sarkozy, a déjà volé au secours de salariés en difficulté. À une dizaine de jours du premier tour, il continue. Aujourd'hui, il recevait à son QG de campagne une délégation syndicale de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Les 3500 salariés craignent la fermeture du site. La délégation a obtenu une intervention de Nicolas Sarkozy, Fabien Cazot.
Oui, il s'engage à organiser la semaine prochaine
prochaine une réunion État-direction-syndicat en présence donc du ministre de l'Industrie, Éric Besson. C'était une demande des syndicats de PSA dont Nicolas Sarkozy a salué ce matin le sérieux. Tout s'est passé dans le calme, contrairement à la manifestation des sidérurgistes d'ArcelorMittal il y a un mois. Ce matin, cet ouvrier d'Aulnay, François, semblait plutôt satisfait de la rencontre avec le président candidat.
C'est positif. On est dans une période électorale. De venir devant le QG de Sarkozy, ça permet de faire parler de nos problèmes. Bon, là, la nouveauté, c'est que Sarkozy s'est décidé hier soir assez tard à nous recevoir aujourd'hui. Bon, bah, ça fait une petite victoire, ça fait une étape de franchie et ça va permettre d'avancer un peu plus vers ce qu'on veut.
Ce que les ouvriers réclament, c'est un engagement écrit de PSA sur le maintien de l'activité à Aulnay. Gilles prévient, il ne se contentera pas de belles paroles.
Les paroles s'envolent et les écrits restent, voilà. Tant qu'on n'aura pas eu un truc écrit, ça ne sera pas gagné. Il faudra qu'on reste vigilant et qu'on reste mobilisé jusqu'à ce qu'on nous entende et enfin sur le problème d'Aulnay. Voilà.
Nicolas Sarkozy annonce de son côté qu'il recevra le patron de PSA, Philippe Varin, dans les prochains jours pour évoquer le sort de l'usine d'Aulnay.
Fabien Cazot. Ce n'est pas tous les jours que Marine Le Pen est d'accord avec François Hollande. Et pourtant, ce matin, sur Europe 1, la candidate du Front National s'en est prise à François Fillon, qui s'était inquiété d'attaques spéculatives en cas de victoire socialiste. Elle dénonce un chantage.
Je trouve ça assez scandaleux que le Premier ministre se serve de ce chantage, comme en forme d'aveu d'ailleurs. Ça veut dire que donc les marchés financiers décident qui devrait être président ou pas. Moi, il me semblait que c'était le peuple français. Et j'ai même la crainte qu'on utilise les marchés financiers pour essayer de pousser à un choix ou à un autre. Je prends beaucoup d'influence aux banques et aux marchés financiers qui ont déjà placé leurs employés de banque à la tête de l'Italie, à la tête de la BCE, à la tête de la Grèce. Pourquoi on n'entend pas la gauche sur la situation de la Grèce ? Où on est en train d'assassiner le peuple grec, de supprimer toute protection sociale, de baisser les salaires, d'allonger les files de pauvres qui vont à la soupe populaire, où les suicides ont été multipliés par deux. Mais qu'est-ce que la gauche dit là-dessus ?
Et vous voulez dire que ça nous pend au nez.
Mais évidemment que ça nous pend au nez.
Marine Le Pen, ce matin sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach, la candidate du FN qui faisait partie hier des 5 premiers candidats interrogés dans l'émission Des paroles et des actes sur France 2. La suite ce soir avec Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou ainsi que Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. Ces deux sondages en marge de la campagne, Jean-Luc Mélenchon est le candidat du changement selon 60% des Français. Enquête BVA pour le Parisien. Et puis près d'une personne sur 5 préférerait partir en vacances avec François Bayrou, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Globalement, plus de la moitié des Français seraient d'accord pour partir avec une personnalité politique. Là, c'est un sondage OpinionWay pour un site internet de voyage. Raymond Aubrac, qui s'est éteint mardi à 97 ans, reposera aux côtés de sa femme Lucie. Le célèbre résistant sera incinéré. Ses cendres rejoindront le cimetière de Salornay-sur-Guye en Saône-et-Loire. On ouvre maintenant la page foot avec d'abord l'exploit de Queville. Le club amateur qui joue en national s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en éliminant Rennes hier soir, victoire 2-1. Queville affrontera Lyon le 28 avril prochain au Stade de France. Du côté de Marseille, les supporters étaient nettement moins à la fête. Leur équipe a perdu sur son terrain contre Montpellier 3-1. Match en retard de championnat, Montpellier qui domine le classement avec 3 points d'avance sur le PSG. Des nouvelles de Nicolas Anelka. Maintenant, l'ancien international français était déjà joueur dans le club chinois de Shanghai. Désormais, il occupera également la fonction d'entraîneur aux côtés de Jean Tigana. Anthony Dufour est le correspondant d'Europe 1 en Asie.
3 mois en Chine et c'est déjà la crise pour Anelka et Tigana à Shanghai. Leur club de Shenhua a raté son début de saison, 11e sur 16 après 5 matchs. Résultat, le fantasque président du club a décidé de tout changer. Nicolas Anelka devient entraîneur-joueur, il l'a annoncé lui-même lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement.
Je ne connais pas du tout la situation entre le coach et le club. On m'a juste demandé de prendre place en tant qu'entraîneur. Comme il n'y avait pas d'autre solution, j'ai accepté tout simplement. Maintenant, ce que je peux apporter au club, je ne sais pas. C'est un nouveau challenge pour moi, être coach et joueur. Je vais faire mon possible pour apporter des résultats positifs et on verra comment ça se passe dans le futur.
Jean Tigana est toujours à Shanghai. Ses 3 adjoints français sont eux en partance. L'ancien entraîneur de Bordeaux joue visiblement le bras de fer avec son président. Un président qui cherche déjà un nouvel encadrement. Il aurait fait une offre délirante à José Mourinho, le coach du Real Madrid. Une chose est sûre, le feuilleton du football shanghaïen ne fait que commencer.
Anthony Dufour, à Shanghai, pour Europe 1. Réapparition d'un tableau de Cézanne volé en 2008. Jeune garçon au gilet rouge avait été dérobé dans un musée de Zurich en Suisse, en même temps que des toiles de Degas, Van Gogh ou Monet. La police serbe a découvert le tableau hier soir à Belgrade. Trois suspects ont été arrêtés. On va terminer avec des nouvelles du ciel. C'est capricieux, c'est humide, c'est frais, n'en jetez plus, Laurent Cabrol.
Oh là là, oui, vous avez raison. Ça aurait inspiré Cézanne, tenez. Je suis sûr que le ciel que nous avons en ce moment aurait inspiré un impressionniste, ça aurait été magnifique. Il est vrai que j'ai bien du mal à vous dire, il va pleuvoir à tel endroit, il va faire beau à tel endroit, parce que à tout moment de la journée, nous avons à la fois un rayon de soleil du mois d'avril, qui est toujours un rayon de soleil assez sympathique, et puis une grosse averse, et un gros orage. Donc pour aujourd'hui, c'est, disons, en taillant la serpe, hein, c'est des pluies sur la moitié sud, des éclaircies sur la moitié nord. Ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, sachez qu'à tout moment, sur la région de la moitié sud, vous aurez et vous subirez une averse. Demain, un peu plus précis quand même, avec sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et tout le sud-ouest, des orages dans le courant de la journée, ou en tout cas des averses assez musclées. Sur la Côte d'Azur, la Corse et sur les Alpes, des pluies un peu plus présentes. Et puis, des éclaircies majoritaires sur Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Bourgogne-Auvergne, région parisienne, Languedoc-Roussillon, éclaircies majoritaires surtout en matinée. Les températures demain, 12 à Caen, 13 à Lille, 14 à Limoges, 15 à Lyon et Paris, 16 à Marseille et 20 degrés à Montpellier. Simplement, donnez-moi une seconde pour vous dire que jusqu'à la fin de la semaine, le temps ne changera pas. Que la semaine prochaine, selon nos prévisions ici à Europe 1, le temps ne changera pas non plus. Nous sommes donc partis pour un mois d'avril qui s'annonce très humide, très nuageux. pas très doux, ce qu'on vient de dire, souvent très frais. Ne nous plaignons pas, on s'est plaint au mois de mars, tout le monde me disait « Ouais, j'en ai marre de la chaleur !» Et bien là, voilà, nous avons maintenant la fraîcheur, et ne me dites pas que vous n'êtes pas content.
Bon, alors je ne vais pas le dire, mais j'ai pensé très fort. Merci beaucoup, pense très fort, effectivement. Et bon après-midi sur Europe 1.
Merci Hélène, à demain. Dans un instant, sur Europe 1, du rêve de l'évasion, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comment se soigner nos ancêtres quand ils avaient une migraine, une rage de dents, encore une forte fièvre? C'est cette question toute simple et en même temps fondamentale que Franck Ferrand se pose aujourd'hui avec vous sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les Français, on le répète souvent, sont avec les Américains les plus gros consommateurs de médicaments au monde, avec une dépense moyenne par an et par habitant supérieure à 500 euros. Aujourd'hui, des molécules ultra identifiées permettent une action ciblée, souvent efficace. Il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, il fallait recourir à des substances naturelles, végétales mais aussi animales. On cherchait la potion universelle, l'impossible panacée, vous savez, qui était identifiée tantôt à la thériaque, tantôt à l'orvietan. Des formules, des poisons, des balances pour peser les épices au demi-gramme. Je vous propose de coiffer la toque et de nous immiscer dans le secret des vieilles officines.
Nous avons hâte. Alors, chers auditeurs, si vous avez des questions, des remarques, des témoignages à nous proposer, c'est le moment de nous joindre. Grâce au site internet d'Europe 1, www.europe1.fr.
Oui, nous ferons notre possible pour vous répondre avec l'aide d'un historien des sciences et de la doyenne de la faculté de pharmacie de Paris.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes à Paris, justement, dans le quartier du Pont-Neuf, vers la fin du règne de Louis XIV, disons, pour coller avec ma documentation, que nous sommes en l'an de grâce 1697. C'est l'année de l'opéra-ballet L'Europe galante et de la publication des contes de ma mère Loi. Navré de vous l'apprendre, mais nous n'allons pas très bien aujourd'hui. Depuis quelque temps, nous sommes sujets à des nausées, à des vomissements. Alors une voisine compatissante nous a recommandé, souverain remède, affirme-t-elle, du germe de grenouille. Allons bon, où est-ce qu'on pourrait bien trouver ça? C'est alors que nous tombons sur une réclame imprimée de l'épicier apothicaire du quai de Nesle, ce qui deviendra un jour le quai Conti. Pourquoi ce terme d'épicier apothicaire? Mais parce que depuis le Moyen-Âge, les deux métiers sont confondus dans une même corporation. Au départ, n'est-ce pas, l'apothicaire, c'est celui qui vend des épices, ce terme recouvrant toutes les sortes possibles d'herbes et de plantes, et les potions et les crèmes, les onguents, les emplâtres qu'on peut faire avec tout ça. L'apothicaire, évidemment, dispose d'un savoir bien plus vaste, bien plus précis que celui de l'épicier. Du reste, depuis deux bons siècles, depuis une ordonnance de Louis XII, les apothicaires peuvent vendre de l'épicerie, alors que le contraire n'est pas vrai. Les épiciers, eux, ne sauraient proposer des remèdes de leur fabrication. Si vous voulez, un apothicaire peut être épicier, mais un épicier n'est pas forcément apothicaire. Le choix des ingrédients, leur dosage, leur mélange, tout ça, c'est peu à peu constitué dans un savoir-faire d'élite qui est réservé aux apothicaires patentés. Alors comment est-ce qu'on devient apothicaire ? Mais d'abord, il faut faire un apprentissage pendant 4 ans environ. Alors on est chez un patron qui loge, nourrit, blanchit et auquel, en échange, on paie une somme forfaitaire mais assez élevée. Il faut apprendre pendant ces 4 années, bien évidemment, à reconnaître les différents produits, à les peser, car on ne pèse pas tous les types de produits de la même façon, bien entendu, à opérer les mélanges, les cuissons. Ça, c'est un premier stage. À ce moment-là, on devient compagnon et le compagnonnage va durer, selon les cas, de 3 à 10 ans. Pour accéder à la maîtrise, il faut avoir 25 ans minimum. On estime que si vous n'avez pas 25 ans, vous n'avez pas les garanties de sagesse ou de sérieux nécessaires pour pouvoir vous occuper de drogues et de poisons. Le candidat doit présenter un certificat de bonne vie et mœurs, qui d'ailleurs est extrêmement répandu pour quasiment toutes les professions dans toutes les corporations sous l'Ancien Régime. Et puis, il doit surtout subir un examen. Alors, il y a des interrogatoires oraux et puis il y a des épreuves de confection, des épreuves pratiques. Il faut fabriquer des sirops, des onguents, des emplâtres, etc. Et une fois que vous êtes agréé, alors là, vous payez d'abord les droits d'examen qui sont extrêmement élevés pour la profession d'apothicaire et vous devenez maître apothicaire sitôt que vous avez prêté serment. Un serment dont les termes vont évoluer au fil du temps. Vous devez jurer d'exercer la profession avec conscience et loyauté, de préparer les médicaments selon l'antidotaire en vigueur, de surveiller la vente des poisons, de ne pas faire de quiproquo au sens propre, hein, c'est-à-dire de ne pas se tromper dans l'utilisation, bien sûr, des différents ingrédients, et que si vous utilisez un générique, un quiproquo, je dis un générique, l'anachronisme est choquant, mais il dit bien, il répond à la situation, alors vous devez en informer le recteur de la corporation. Donc vous voyez que tout ça, bien entendu, est extrêmement réglementé. Vous devez par ailleurs, bien sûr, conserver le secret professionnel. Là encore, ça fait partie des règles très générales. Alors je parle, et pendant ce temps, nous avons fait du chemin. Nous voilà devant l'officine du quai de Nesle. Nous allons pouvoir faire connaissance avec l'apothicaire lui-même. Alors comment s'appelle-t-il ? Ah oui, monsieur de Blégny fils. Il exerce à l'enseigne du Serpent. Ses confrères ont parfois adopté de drôles de noms, au moutardier, au singe qui file, au mortier d'or, à l'ours qui boit.
Tout un programme.
Tout un programme. Alors nous entrons, faisons grincer un peu le parquet de chêne, nous respirons ce curieux mélange d'épices où surnagent la cannelle et la fleur d'oranger. On va attendre dans un coin sur l'escabelle offerte aux clients fatigués ou blessés. Il y a des choses qui ne changent pas comme ça de siècle en siècle. L'échoppe est magnifique, il faut le dire, toute de bois ciré, avec sur les murs de jolies niches pleines de flacons de porcelaine, certains sont en verre, tous marqués du nom des substances proposées à l'usage de la médecine. Vous avez reconnu monsieur de Blégny là-bas dans le coin, derrière son comptoir plein de balances et de trébuchets. Drôle de tenue tout de même. Selon la tradition, le docte artisan porte le mantelet et la toque, une sorte de calotte un peu étoffée. C'est ce qui convient à l'état d'épicier apothicaire. Il est barbu, souvent grave, volontiers sentencieux. Bref, un apothicaire. D'où vient ce mot ? Du grec apothéke, qui signifie la réserve, l'arrière-boutique, si vous voulez. Car ce que l'on demande avant tout à l'apothicaire, c'est de disposer bien en ordre de tous les produits possibles en bon état de conservation afin de fabriquer les mélanges, les alliages, les dosages qui feront merveille sur l'œdème, sur la plaie ou sur le furoncle. La notice que M. de Blégny fait distribuer aux passants énumère toute la quantité de bons médicaments qu'on pourra trouver chez lui. Liqueur pour la guérison des phtisiques et des pulmoniques, écrit-il. Tisane pour purger de la bile. Eau vulnéraire contre le scorbut, les ulcères et le cancer. Sirop calmant les maux de dents. les coliques et les rhumatismes, liqueur de jouvence. Alors là, évidemment, on arrive quasiment dans ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, la parapharmacie. Alors, il y a deux produits dont ne parle pas la notice de M. de Blény, mais qui sont fondamentaux à l'époque. C'est la thériaque et l'orviétan. Qu'est-ce que c'est que cette thériaque? De quoi l'orviétan est-il fait? Eh bien, tout à l'heure, en compagnie de nos invités, nous reviendrons évidemment sur ces deux produits miracles et sur... on parlera d'antimoine également, parce que l'antimoine aussi a eu sa période de grande vogue. Ce sont des produits considérés quasiment comme des panacées, ce sont des médicaments universels, mais évidemment qui n'étaient pas sans effet secondaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Grande question d'une façon plus générale, est-ce que toutes ces drogues, le drogue c'est le mot qu'on employait au XVIIe siècle, est-ce que toutes ces drogues sont efficaces? On parle aussi de pharmacie. Autrefois, le terme qui est issu du grec, lui aussi, hein, pharmakon, qui signifie, qui désigne plutôt les produits laxatifs, pour ne pas dire les poisons. Est-ce que donc ces drogues sont efficaces? Eh bien, pour tout vous dire, la plupart sont assez inoffensives, certaines sont assez dangereuses, et puis il peut en exister d'efficaces, mais il faut vraiment les chercher au milieu de, au milieu de, toute, cette, de toute cette boutique.
Une petite badinerie de Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, Franck.
Ben oui, nous badinons aujourd'hui, c'est comme ça. Cette année, donc on est en 1697, je vous rappelle, cette année vient de paraître la pharmacopée du docteur Charras, étrangement porté sur les drogues d'origine animale. Il indique le sel de cloporte et de ver de terre contre la goutte, le sel de crapaud contre l'hydropisie, et puis bien sûr, parmi tous les animaux, c'est la vipère qu'il met en avant. « Choisissez des vipères longues, écrit-il, pesantes, à l'œil vif, au museau retroussé, qui se soient nourries de rameaux de fenouil vert, coupez les têtes et les queues, enlevez les entrailles et la peau, faites bouillir avec du sel et de la nette, puis pressez légèrement, on redonnera la recette pour ceux qui s'intéresseraient.
Évidemment, sur la page europain.fr.
Puis pressez légèrement la chair cuite, mélangez-la avec du pain sec pulvérisé pour en faire de petites trochisques que l'on fait sécher et mettez tout ça dans des vases d'étain, de verre ou d'or. Très important le contenant, c'était un des secrets de la profession. Alors certains produits sont carrément d'origine humaine. Vous savez que Madame de Sévigné, on a souvent dit ça, mais elle raconte quand même qu'elle avale chaque soir des gouttes d'essence d'urine humaine, ce qui, semble-t-il, d'une part empêche un peu de dormir, mais d'autre part possède des vertus curatives avérées. Il y a aussi le cas de la moumie. On viendra à la moumie, c'est un cas assez peu ragoûtant. S'il y a des gens à table aujourd'hui, je leur conseille de terminer assez vite leur déjeuner. Alors, avant Charras, Nicolas Lemery a fait paraître une pharmacopée universelle et un dictionnaire des drogues qui propose les recettes détaillées de 148 électuaires et de 117 emplâtres, parmi lesquels des emplâtres de frais de grenouille et de sang humain. Il préconisait, notre Lemery, l'huile de petits chiens nouveau-nés et de vers de terre bouillis pendant 12 heures contre la sciatique et la paralysie, et une huile de lézard contre les hernies. On va finir par croire à force de lire ces recettes que ces gens étaient des charlatans. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça n'en a l'air, tout ça. En attendant, nous avons trouvé à l'enseigne du serpent notre germe de grenouille qui devrait nous guérir de la nausée, à moins que tout ce que je viens de vous raconter et tous ces renseignements d'apothicaire ne vous l'aient donné, la nausée. Bref, je trouve les renseignements que je vous donne là dans un article célèbre du chroniqueur Bernard Denuel qui concluait sur les modes de médicaments comme il y a des modes vestimentaires ou alimentaires. Certaines drogues sont portées au nu avant d'être abandonnées comme inutiles, voire néfastes. Vous savez, c'est Sénaque de Meillan, le littérateur, homme de cour, homme de salon, qui disait quand il entendait parler d'un remède en vogue « Oh, hâtez-vous d'en prendre pendant qu'il guérit encore », disait-il. Nous avons, quant à nous, quitté l'officine de Monsieur de Blény, quai de Nesle, avec notre petite fiole de germes de grenouille, un peu vite peut-être et sans lui demander comment on utilisait le produit en question. Oh, après tout, ça vaut peut-être mieux.
Wow. Sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, vous recevez aujourd'hui sur Europe 1 Yvan Broard, qui est historien, commissaire d'exposition, chargé de mission, art et sciences auprès du président de l'Université de Paris Descartes. Également avec nous, Martine Ayage, qui est doyenne de la faculté de pharmacie de Paris.
Et tous deux, notamment Yvan Broard, qui a dirigé l'ouvrage, ont produit des articles pour une histoire de la pharmacie publiée aux éditions de La Martinière en partenariat avec l'Université Paris Descartes, qui s'appelle « Remèdes, onguents, poisons », on a très envie d'ajouter, et « Thériac, et Orvietan, et Antimoine, et Mandragore, et Bézoar ». On va venir, si vous voulez, dans un instant, on va en venir à tous ces produits miracles ou réputés tels, savoir de quoi ils étaient faits et quelles étaient leurs vertus supposées ou réelles. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez, Yvan Broard, sur les toutes origines de la pharmacie. On va par simplification, on va dire de la pharmacie, même si évidemment on n'employait pas le terme. On trouve des traces de médication dans l'Orient ancien, en Mésopotamie, hein, sur deux tablettes cunéiformes qui sont absolument authentiques et qui sont des ordonnances médicales. Tout et puis fait. Aussi sur un très grand parchemin, lui beaucoup, pas parchemin, lotus, comment dit-on hein,
Papyrus,
merci. dans l'Égypte antique, exactement.
Voilà.
Papyrus et Bers.
Effectivement, on a des traces de médicaments qui sont imprimés dans l'argile dès l'époque sumérienne. Il y a des choses d'ailleurs qui sont très très belles et qui sont exposées dans différents musées du monde. À l'époque égyptienne, effectivement, on va reprendre ces médicaments sur des papyrus très célèbres. Et à l'époque, je dirais qu'il y a une utilisation des trois règnes, minéral, animal, végétal, ce qui va durer d'ailleurs des siècles. Mais il y a aussi beaucoup une part, je dirais, religieuse, d'incantation, de prédiction. Et il faudra attendre la Grèce pour que Hippocrate, et ça dans sa célèbre collection hippocratique, parle véritablement des premiers médicaments.
Il faudra attendre notre époque pour qu'on revienne à l'utilité du conditionnement psychologique dans certaines médications. C'est-à-dire qu'on... Sans revenir du tout aux attitudes propitiatoires ou religieuses, on en revient néanmoins à une attitude plus psychologique par rapport à...
Oui, parce que je pense que dans notre médecine occidentale et dans la pharmacie occidentale, il y a eu progressivement, au cours des siècles, une distanciation qui s'est faite entre le corps, entre l'aspect psychique. L'aspect psychique. Mmh. Et d'ailleurs, nous projetons de faire un quatrième tome de livre qui montrera les apports respectifs de la médecine chinoise, qui elle prend beaucoup plus en considération l'aspect à la fois psychique et l'aspect du corps, à proprement parler, donc les apports respectifs de la médecine occidentale et de la médecine chinoise.
Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, très clairement, nous établissions une distinction entre médecine et pharmacie. Dieu sait que nous avons consacré un certain nombre d'émissions à l'histoire de la médecine, mais là, aujourd'hui, c'est bien aux médications que j'aimerais, aux médicaments, aux produits que j'aimerais qu'on s'intéresse. Quels sont les grands noms de l'Antiquité dans ce domaine? Ils sont grecs et romains, évidemment.
Absolument. Je pense que le premier grand nom, au-delà d'Hippocrate, si vous voulez, dont on vient de parler, le père de la médecine, c'est Dioscoride. Et Dioscoride qui établit une pharmacopée tout à fait considérable, basée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les règnes végétal, minéral et animal, avec quand même une prépondérance du règne végétal. Donc Dioscoride est un incontournable et la pharmacopée hein, de Dioscoride va durer, si vous voulez, des années et sera encore utilisée dans la médecine officielle, dans la médicamentation officielle jusqu'au XVIIe siècle et dans la médicamentation populaire, parce que là aussi nous envisageons de faire un ouvrage sur les médecines populaires, pratiquement jusqu'au XXe siècle.
Justement, quelle est la part des produits universels dans tout ça, Martine Ayache? Est-ce qu'on peut dire que sous l'Antiquité, on utilisait déjà un certain nombre de principes actifs connus aujourd'hui?
Oui, alors ça s'appelait pas des principes actifs, puisque c'est vraiment un concept qui a été introduit par Paracelse au moment de la Renaissance. Mais effectivement, on connaissait, par exemple, la qualité de ce qu'on extrayait du pavot, l'opium. On connaissait ses propriétés sédatives, antidouleurs. On avait comme cela toute une série de propriétés des drogues qui étaient déjà établies. Et puis, on on réfléchissait déjà sur le concept d'antidote, puisque finalement beaucoup de préparations étaient destinées à contrer les poisons et à contrer également les morsures par des animaux venimeux, des serpents, etc. Donc beaucoup de concepts étaient basés sur l'antidote pour contrer des effets négatifs des produits de l'environnement.
Alors on n'ingérait pas tous les produits, loin de là. On utilisait beaucoup les emplâtres, les sangsues aussi, dans un autre registre.
Alors effectivement,
mécanique.
Les sangsues, c'est une histoire amusante, parce que dès l'Antiquité, on utilisait ces petits vers qui se nourrissent du sang des mammifères. On les utilisait pour essentiellement pour drainer le sang dans les problèmes de stase veineuse, pour les hémorroïdes également. Et puis les sangsues ont continué à être utilisées au Moyen-Âge. Elles ont été un peu moins utilisées au moment où on pratiquait beaucoup la saignée. Et puis au moment de la Révolution, il y avait un manque de chirurgiens important. Donc on a réutilisé les sangsues pour éliminer une certaine quantité de sang chez les patients.
Alors nous allons en venir à ces produits extraordinaires, à ces panacées dont je vous promets la description depuis le début de l'émission. Beaucoup de messages aujourd'hui. J'écoute d'autres émissions, nous dit Isabelle. Encore au début du 19e siècle, le docteur Demour recommande à la marquise de Contade, pour soigner ses ophtalmies, des remèdes à base de jus de cloporte. Donc voilà, c'était peut-être pas très ragoûtant, mais si nos ancêtres revenaient, nous dit Hélène, ils feraient une drôle de tête en apprenant qu'un apothicaire ne pouvait exercer avant 25 ans et qu'aujourd'hui, en 2012, on peut se présenter à l'élection présidentielle dès 18, nous dit-elle. Et c'est Paul qui nous demande le lien entre apothicaire et droguiste, Yvan Broard.
Eh bien, apothicaire et droguiste, en général, la comparaison, si vous voulez, n'est pas forcément la bonne. Je pense que au départ, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, il y a une confusion, si vous voulez, qui se fait entre les apothicaires et les épiciers. En particulier à partir du XVIe siècle, parce que bon, les horizons s'ouvrent et il y a de plus en plus, bon, dès la route de la soie, dès le XIIe, XIIIe siècle, avec Marco Polo, il y a déjà, si vous voulez, bon, des épices qui arrivent. Et donc, les épiciers et les apothicaires sont extrêmement, si vous voulez, proches les uns des autres dans un premier temps. Bon, les droguistes, je pense que c'est plus par assimilation, si vous voulez, à l'épicier, droguiste, voyez, que il y a pu éventuellement y avoir ce rapprochement qui a été fait. Mais peut-être aussi faut-il parler de ce qu'est une drogue en soi.
Prenez vos stylos et vos calepins. Dans un instant, la recette de la thériaque.
11h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Les labos poussés stimulent l'énergie de leurs chercheurs pour trouver la molécule dont ils auraient la primeur. Un nouveau produit miracle, un médicament parfait qu'on portera au pinacle avec la publicité radio-télé.
Pas bon pour les diabétiques, pour le foie, l'hypertension, interdit aux allergiques et aux malades du côlon. Les effets indésirables, plus les contre-indications, ce médoc n'a l'air valable que pour faire du pognon, faire du pognon.
Ce médoc n'a l'air valable que pour faire du pognon, nous chante l'égoriste sur Europe 1.
Est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, venons-en à ces panacées, à ces médications universelles. Et la première, la plus célèbre, c'est évidemment la thériaque, qui est d'origine romaine, Yvan Broard.
Oui, avant ça, puisque en fait, on pense que c'est Mithridate, qui était roi de Perse, qui est à l'origine en fait de la thériaque. Mais c'est vrai que le nom de thériaque sera donné à l'époque romaine, et que Galien, qui est un des plus grands médecins romains, en particulier des grands gladiateurs romains, tenaient boutique en fait et fabriquaient la thériaque, dont nous avons encore les indications extrêmement précises, puisque dans des livres du XVIIe et du XVIIIe siècle, on a encore les 74 ingrédients qui composaient la thériaque originelle.
Alors oui, c'est ça, 74 ingrédients, ou entre autres, hein, des pilules de vipère, alors ça je ne sais pas trop ce que c'est, mais des rognons de castor, de l'opoponax, du bitume de Judée, on ne doit pas être très loin de la fameuse moumie là,
oui.
De la myrrhe, de l'encens, de la réglisse, Et alors le produit, ça c'est un peu ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire de Teriac, Martine Ayache, c'est que le produit est efficace 4 ans après sa composition seulement, donc il y a tout un moment de fermentation, mais qu'il cesse de l'être, en tout cas selon Ambroise Paré, à partir de la 12e année.
Ça souligne l'importance qu'on a toujours apportée à la conservation des médicaments, et effectivement, je pense qu'à un certain moment, le prix des médicaments dépendait de sa durée de conservation. Maintenant, je crois que c'est un petit peu fantaisiste de penser qu'il était efficace seulement après tant d'années. Moi, je pense que dans la Teriac, il y avait un petit peu d'opium et que c'est cet effet sédatif qui était recherché et qui pouvait avoir un effet thérapeutique.
C'est-à-dire que l'opium à lui tout seul emportait la mise, en quelque sorte.
Moi, c'est mon opinion.
À quoi utilisait-on la Teriac ? Quelles étaient les prescriptions ? Parce que c'est un médicament universel, en quelque sorte, donc on peut l'utiliser pour tout.
Pour tout, oui. Pour tout. Et plus on a avancé, en fait, en époque, et plus on a sa renommée, en fait, a grandi à tel point qu'on l'a fabriqué en public, et notamment le premier à l'avoir fabriqué réellement en public, officiellement, c'est Moïse Charras, que vous évoquiez tout à l'heure, en 1668. Donc on est au début du siècle de Louis XIV. Mmh. Ah oui, ça donnait l'occasion à de réjouissances énormes, puisqu'en fait, la Teriac était considérée comme le remède universel.
Alors 74 ingrédients pour la Teriac, 25 seulement pour l'orviétan. Ça fait déjà moins rêver, forcément. Alors là encore, on utilise des vipères séchées avec leur cœur et leur foie. C'est très important, surtout. Et ça guérissait, dit-on, la gale, la teigne, la peste, la goutte et la variole.
Oui. Et l'orviétan, alors là, l'orviétan, c'est quelque chose d'assez particulier parce que, les colporteurs vendaient de l'orviétan. Il y avait des marchands d'orviétan. Et il y avait aussi beaucoup de truands, je dirais, qui vendaient aussi l'orviétan dans les campagnes.
Mais alors, quelle forme est-ce que ça prenait ?
Et la composition pouvait être extrêmement variable. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve des formules d'orviétan multiples.
Générique pour désigner,
c'est
en quelque sorte.
C'est un nom complètement générique et qui pouvait changer, en fin de compte, en fonction des personnalités plus ou moins sérieuses, plus ou moins professionnelles, pourrait-on dire.
Quand on est familier, comme c'est mon cas, du siècle de Louis XIV, on parle beaucoup d'antimoine, bien entendu, qui longtemps a été interdite, jusqu'au jour où le roi lui-même s'en trouve bien, selon l'expression de Fagon, et alors d'un seul coup, on réautorise l'antimoine.
Oui, alors il y a eu une querelle de l'antimoine considérable, qui avait été développée essentiellement par les alchimistes, et par Paracelse en particulier, au XVIe siècle, qui s'opposait à une forme de médecine traditionnelle. Mais en fait, l'antimoine, ce qu'on appelait le verre d'antimoine.
Du vin émétique antimonial.
Du vin émétique qui permettait, en fait, qui était une sorte de vomitif et qui, là encore, permettait au départ d'éliminer le poison. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, le poison, et comme Martine l'a dit tout à l'heure, le poison, le serpent, la vipère, est omniprésent à travers les siècles. Et la grande peur que l'on peut avoir, c'est d'être empoisonné.
J'ai lu que grâce au vinaigre des quatre voleurs, nous dit Marjorie, des brigands au XVIIe auraient échappé à la peste et pu ainsi détrousser leurs concitoyens malades. Est-ce que vous avez entendu parler de ce vinaigre des quatre voleurs ?
Oui, un petit peu, mais enfin là encore, on se retrouve devant des affabulations complètes.
Et alors la mandragore, ça fait forcément rêver quand ça ne nous renvoie pas au conte philosophique de Voltaire, Martine Ayache.
Oui, la mandragore avait une forme assez suggestive et était supposé avoir des propriétés aphrodisiaques et donc il y avait effectivement un certain nombre de sorcières qui préparaient ce genre de préparation.
C'est-à-dire que c'est surtout en fait la forme au départ qui a donné cette réputation à la mandragore, qui est à la fois une réputation vertueuse et sulfureuse. Donc il y avait une sorte de forme anthropomorphe, un bas de corps humain avec deux jambes. Et déjà, dès l'Antiquité, Dioscoride déterminait qu'il y avait les deux sortes de mandragores, la mâle et la femelle. Et dans l'Antiquité, effectivement, la mandragore était un aphrodisiaque. Les sorcières au Moyen-Âge s'enduisaient de sucs de mandragore avant d'aller au sabbat, mais elle avait aussi des vertus thérapeutiques, semble-t-il multiples, là encore une fois, mais portant surtout sur la dépression. On parlait tout à l'heure de l'empoisonnement, mais une constante aussi dans l'histoire, si vous voulez, c'est lié à la dépression, à ce qu'on appelait la mélancolie, qui a vu en fait sa définition, sa notion évoluer au cours des temps. Et très souvent, comme pour le bézoard d'ailleurs, oui, il y a cette notion de mélancolie qui semblait-il était un mal que l'on voulait absolument vaincre.
Science et philosophie en tout cela sont mêlées, et que du remède au poison et du talisman à la sorcellerie, parfois les frontières sont assez ténues. Nous allons en venir, si je puis dire, à la vraie pharmacie dans un instant, et notamment à l'irruption révolutionnaire du quinquennat.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et ce million d'auditeurs continue de nous abreuver de messages que je ne peux pas tous lire, mais certains sont intéressants. Eudsi, vous rappelez qu'on avait parlé de cet homme des glaces, là. Eudsi, semble-t-il, nous dit Patrick, portait sur lui des plantes médicinales ainsi que des marques des méridiens d'acupuncture. Donc, effectivement, hein, personne n'a nié que tout ça remontait bien au-delà de l'Antiquité, dans les périodes proto-historiques, probablement préhistoriques même, bien entendu. C'est Aurélie qui nous donne des exemples de vieilles apothicaires dans sa région. Mais oui, il y en a un peu partout. Il faut les visiter, c'est toujours un bonheur. Ce sont des lieux souvent de sérénité. Sait-on, nous demande Isabelle, si les remèdes étaient testés avant leur mise en vente, autrefois?
Actuellement, oui, bien
ça,
sûr.
Oui. Mais plutôt 10 fois qu'une aujourd'hui. Mais...
Je pense qu'ils étaient testés directement sur les malades, oui. Et l'expérimentation animale est venue beaucoup plus tard. Je pense que c'est Claude Bernard au 19e siècle qui a introduit l'expérimentation animale avant d'administrer un remède à un patient.
Alors Martine Ayache, je parlais de l'arrivée du Nouveau Monde, évidemment. Mmh. De ce quinquennat qui va tout changer.
Ouais. Alors le quinquennat donc a été utilisé pour son écorce et assez rapidement plusieurs personnes, mais essentiellement les jésuites ont ramassé l'écorce de quinquennat dans la cordillère des Andes en altitude, et on a appelé donc cette écorce réduite en poudre la poudre des jésuites, et on a observé ses propriétés sur les fièvres, en particulier sur les fièvres récurrentes. Et ce quinquennat est arrivé en Europe, et il a été notamment utilisé à la cour d'Angleterre, où il a permis de traiter un certain nombre de personnes, en particulier, je crois, un dauphin. Mais en France, il y a eu une violente opposition sous Louis XIV, car le doyen de la faculté de médecine pensait que c'était une ineptie d'utiliser de la poudre de quinquennat qui était quelque chose
qu'il appelait le quinaquina, lui.
Voilà, le quinaquina, c'est l'écorce des écorces. Hein. Mmh. Donc, il trouvait que c'était une ineptie, car il en était resté, en fait, à la théorie des humeurs, où on traitait les maladies par leur contraire. Et puis, le grand dauphin a été atteint d'une fièvre récurrente. On lui a administré, le médecin, qui était Fagon, le médecin de Louis XIV, s'est procuré de la poudre de quinquennat, du vin de quinquennat plus exactement. Le dauphin a guéri. Donc, à la suite de cela, on a acheté des grandes quantités de poudre de quinquennat pour distribuer dans les hôpitaux.
C'est du reste une constante dans l'histoire, non seulement de la pharmacie mais de la médecine, que les têtes couronnées servent souvent de cobayes.
Absolument. Effectivement, ça a vraiment lancé la mode du quinquennat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est que plus tard, en 1820, qu'on a extrait le principe actif, c'est-à-dire la quinine, et ces deux pharmaciens, Pelletier et Caventou, dont l'un avait une pharmacie rue Jacob qu'on peut encore voir à l'heure actuelle. Et c'est dans leur pharmacie qu'ils ont extrait la quinine, le principe actif du quinquennat.
Et c'est une pharmacie qui reste d'ailleurs toujours très à la pointe, oui, de tout ce qui se fait d'un peu nouveau. C'est très intéressant. en 1820, on peut vraiment parler cette fois, Yvan Broard, de pharmacien au sens propre. Depuis l'ordonnance royale de 1777, c'est officiel.
Des pharmaciens et des pharmaciens qui vont prendre, je dirais, de plus en plus pour emblème la coupe et le serpent. Et donc là, on peut remonter aussi un petit peu dans l'histoire, parce que la plupart du temps, on peut se poser des questions à ce sujet. Eh bien, le serpent, encore lui, apparaît dans beaucoup de figurations de déesses grecques. Et en particulier, il va accompagner en permanence Hygie, qui est la fille d'Esculape pour les Romains, Asclépios chez les Grecs. Mmh. Et ce serpent est considéré à la fois comme un animal venimeux, mais aussi comme un animal nourricier, bienfaiteur. Alors ça, c'est aussi très intéressant, parce que dans de nombreuses cultures, notamment dans les sociétés premières, en particulier en Afrique ou en Océanie, on retrouve ce rôle bénéfique du serpent. Et la fameuse coupe que tient Hygie, qui évoque à l'heure actuelle plus le mortier des pharmaciens, était à l'époque, semble-t-il, ce qui permettait d'être la coupe qui permettait de contenir les aliments en fait capables de nourrir le serpent.
J'ai à l'esprit cette scène du film avec Louis Jouvet, Knock, où l'on voit le médecin Knock aller essayer d'obtenir la complicité du pharmacien. Et ce pharmacien, on est pourtant à la fin des années 1920, il est encore tout droit issu du 19e siècle, hein, avec sa camisole, avec sa toque, avec ses trébuchets. On a vraiment l'impression d'un pharmacien d'autrefois.
Tout à fait. Encore au 19e siècle, je pense, comme le disait Axel Kahn à propos du livre précédent que nous avons fait, le 19e siècle est un tournant, mais je pense qu'il faut attendre véritablement le 20e siècle pour voir la médecine et la pharmacie progresser véritablement, au moins l'extrême fin du 19e siècle. Et c'est vrai que si on lit Balzac, si on lit un certain nombre de grands littérateurs, eh bien on s'aperçoit que les officines, par exemple, au début du 19e siècle, sont encore assez poussiéreuses.
C'est amusant parce que l'image qu'on a aujourd'hui du pharmacien, qui est sans doute une image fausse du reste, mais c'est celle d'un distributeur de produits déjà faits. Or, pendant très longtemps, et sans remonter trop loin, moi, dans mon enfance, le pharmacien, c'était encore celui qui fabriquait le médicament qu'il faisait, en tout cas pour certains d'entre eux.
En fait, il y a eu un tournant au début du XXe siècle, c'est la révolution industrielle. Jusque-là, les médicaments, y compris certains médicaments qui ont été purifiés dans les pharmacies, parce que c'est quand même au XIXe siècle qu'ont été extraits et purifiés beaucoup de médicaments, en particulier ceux qu'on appelle les alcaloïdes. Mais à partir de la fin du XIXe et du début du XXe, on passe à une fabrication par synthèse chimique. On fabrique les médicaments, on fait une synthèse, on modifie éventuellement la formule pour leur donner de nouvelles propriétés. Et ça, ça va amener l'industrialisation. Industrialisation qui est accompagnée par une évolution dans la formulation des médicaments avec Wellcome qui invente le comprimé, qu'il appelait le tabloïd, et qui a fait fortune. Hein, et Wellcome a laissé sa fortune à une fondation qui, à l'heure actuelle, finance une grande partie de la recherche en Angleterre.
En fait, cette formule, elle existe encore. Il est possible d'arriver avec une formule dans les mains, de la donner à un pharmacien, de lui faire faire une médication aujourd'hui. Mais c'est devenu assez rare.
Absolument. C'est possible, mais c'est extrêmement réglementé.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut effectivement suivre des bonnes pratiques, mais on le fait encore à l'heure actuelle.
Alors, il aurait fallu, mais c'était l'objet quasiment d'une autre émission, parler de la lutte contre la fièvre, de la lutte contre l'infection, de la lutte plus récente contre la douleur, évidemment, Yvan Broard.
Contre la douleur, oui, parce que là, c'est un long combat qu'on va commencer à mener dès l'Antiquité. Et j'ai traité justement dans ce livre une partie sur la notion, sur la conception de douleur et sur l'évolution de cette notion. Parce qu'on va passer d'une douleur qui est, dans l'Antiquité, encore au Moyen-Âge, qui est subie, mais acceptée. je dirais, par la force des choses, ou par idéologie, ou par, je dirais, le phénomène religieux, sans tomber dans le détail. Et puis, une douleur dont on va essayer, en fait, de s'affranchir. Alors, une étape décisive, je pense, c'est la Renaissance, hein, le XVIe siècle, et des gens comme Montaigne, aux côtés d'Ambroise Paré, par exemple, vont jouer un rôle dans cette volonté de nier la douleur. Et puis c'est au XVIIIe siècle, avec la philosophie, le siècle des Lumières, que là, véritablement, il va y avoir cette conception, en fait, de se libérer à tout prix de la douleur. Il faudra attendre véritablement le XIXe siècle, avec l'apparition des gaz stupéfiants, comme on le disait tout à l'heure, avec le principe actif de l'opium qui va révolutionner l'anesthésie, que le véritable combat contre la douleur va prendre corps. Et c'est un combat qui continue de se développer. Et si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit quand même qu'au fil des siècles, eh bien, les remèdes n'ont pratiquement ou que très peu évolué par rapport à l'Antiquité. Ces trois règnes que l'on évoquait tout à l'heure, minéral, végétal, animal, avec des pratiques aussi empreintes de magie, de religion, etc. C'est véritablement, je pense, vraiment à partir du 19e siècle et bien entendu du 20e siècle que les choses vont commencer à évoluer véritablement et notamment dans le domaine de la douleur.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Martine Aya. Je rappelle que vous êtes doyenne de la faculté de pharmacie de Paris. Merci Yvan Broard. Votre ouvrage, Une histoire de la pharmacie, j'aurais dû le décrire parce que c'est un très bel album, richement illustré, magnifiquement mis en page, avec énormément de hors-texte, d'encadrés, d'illustrations, de détails. C'est-à-dire que ça n'est pas une lecture linéaire, on se promène là-dedans comme dans une sorte de pharmacie de papier. C'est assez extraordinaire. Ça s'appelle Remède, onguent, poison, et la préface de l'ouvrage et la postface aussi, du reste, sont du professeur Axel Kahn. Merci beaucoup de nous avoir entrouvert les portes de l'officine.